Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau magazine Droit et citoyenneté. Votre émission s'intéresse aujourd'hui à la création des richesses. Il est possible pour chaque citoyen de créer des richesses, créer des biens et services et améliorer ainsi les niveaux de vie et sortir de la pauvreté. Comment s'y prendre pour créer des richesses? Les réponses tout au long de cette émission qui reçoit Monsieur Ricardo Kanyama, coach financier et responsable de International Success Training Center, un centre de formation dans le domaine du succès financier. Au micro, Jody Daniel Keshama, Jeff Ngoy réalise ses programmes sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À la technique, Willem Lungamba. Bienvenue à tous. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Droit et Citoyenneté qui se penche aujourd'hui sur la création des richesses afin de briser le cycle de pauvreté. Monsieur Ricardo Kanyama est coach financier et responsable de International Success Training Center. Il s'entretient avec Jeff Ngoy sur la création des richesses. Suivez.
Je crois que notre population a droit à la richesse. Mais pour que ce droit-là se réalise, il faut qu'il y ait des gens qui lui enseignent comment devenir riche. Alors, ISTC, c'est un premier centre de coaching financier où nous enseignons en résumé les leaderships financiers. Parce que les leaderships financiers, c'est la connaissance qui permet à une personne de progresser financièrement et matériellement. Ça veut dire, de devenir riche. Donc, comme c'est une connaissance qui n'est pas enseignée dans les systèmes éducatifs, formel. ISTC veut donc accompagner les acteurs, ceux qui ont des ambitions de devenir des entrepreneurs. Pas les entrepreneurs qui tournent à rond, mais les entrepreneurs qui travaillent dans l'objectif de créer des grandes entreprises, donc dans les objectifs de devenir riches. Voilà.
Voilà. À travers cette émission, nous poursuivons l'objectif de briser l'ignorance dans l'opinion publique. Comment est-ce que le citoyen peut se comporter face aux richesses dont regorge ces pays?
Ok. Je pense que les conseils que je donnerai au peuple congolais, c'est d'abandonner l'illusion selon laquelle, parce que le Congo a un sous-sol riche, nous devons croiser les bras parce qu'il y a quelqu'un qui viendra creuser et nous distribuer. Nous devons abandonner cette illusion parce que ça nous a montré que vous pouvez être dans un pays qui a un sous-sol riche et vivoter pauvre jusqu'à la mort. Il y a des millions de Congolais qui sont nés pauvres, ils ont grandi pauvres, ils sont morts dans la misère. Nous devons donc prendre notre responsabilité et faire notre part, tout en sachant que dans un pays, nous avons des droits et les devoirs. Et tes droits seront en fonction aussi de tes devoirs. Et tes devoirs, c'est ta contribution que tu donnes dans le pays. Si tu nais dans un pays, tu ne travailles même pas pour ton progrès personnel, qui viendra travailler pour ton progrès. Donc, nous avons les devoirs de travailler pour notre progrès personnel, pour le progrès de notre famille, le progrès de notre communauté, le progrès de notre pays, et voire même le progrès de l'humanité, n'est-ce pas? Alors, tout cela ne peut se faire que lorsque nous exerçons notre droit, le droit de devenir riche. Parce que n'oubliez pas que le droit au bien-être, c'est l'un des droits fondamentaux. Et la pauvreté, c'est justement ce qui empêche le droit de bien-être de se réaliser. Donc, les Congolais doivent comprendre que nous avons un travail à faire, nous devons nous réveiller. C'est l'homme qui transforme les potentialités en richesse. Vous pouvez vivre dans ces pays comme le nôtre qui est extrêmement riche, mais est-ce que la population est-elle préparée, a-t-elle des capacités de transformer les potentialités que nous avons en richesse physique, matérielle et financière? C'est ça qui manque.
Et la richesse comme un patrimoine national congolais,
oui.
Et les gens se demandent comment accéder à ces patrimoines communs.
Non, la richesse potentiellement appartient à tout Congolais. Mais en réalité, la richesse n'appartient qu'à celui qui travaille. Le sol congolais est un sol fertile et tout Congolais a le droit de cultiver le sol, n'est-ce pas? Mais le sol congolais ne sera profitable qu'au Congolais qui fera le champ. Les gens ne doivent pas
croiser les bras, être paresseux.
Oui, on ne doit pas se tromper. Si tu ne payes pas le prix d'aller faire des déboiser, des cultiver, bien que le sol congolais t'appartient, le sol congolais ne te produira pas la nourriture dont tu as besoin. Donc, nous devons savoir que si dans ces pays, tu ne prends pas l'initiative de créer une entreprise, tu ne prends pas l'initiative de résoudre un problème spécifique dans la société en termes d'entreprise ou de produits, si tu ne prends pas l'initiative d'aider l'État à créer des emplois ou à mettre une logistique en place, les richesses du Congo ne t'appartiendra jamais. Il y a, par exemple, un exemple que je donne. Imaginez, on peut dire que le Congo est riche. Croyez-vous vraiment, messieurs les journalistes, qu'aujourd'hui, l'État peut distribuer à tous les Congolais l'argent dont ils ont besoin pour vivre? Ça, c'est faux. Parce que nous sommes 80 millions d'habitants. Il suffit seulement que l'État distribue pour notre consommation $1 à chaque Congolais. Si nous sommes 70 millions d'habitants, ça fait 70 millions de dollars par jour. Faites des calculs, ça fait 2 100 milliards de dollars par mois, et en une année, c'est à peu près 24 milliards de dollars. Où est-ce que l'État va prendre cet argent? Et ça, c'est rien que pour $1, tout en reconnaissant que c'est pas avec $1 que la population sera riche. Mais lorsque nous disons que les Congolais doivent exercer son devoir et son droit de devenir riche, ça sera l'inverse. Si chaque Congolais devient maintenant créateur de richesses, n'est-ce pas? Chaque Congolais peut produire et économiser ne fût-ce que $1 par jour. Vous voyez que notre pays, la République démocratique du Congo, peut se retrouver avec 70 millions de dollars économisés dans les banques par jour. Donc, soit 2 milliards 100 millions de dollars en un mois et 24 milliards de dollars en une année. Vous voyez que l'équation sera renversée. En ce moment-là même, nous pouvons parler maintenant du bien-être, nous pouvons parler des ressources naturelles qui deviennent profitables pour un peuple. Parce qu'il y a une condition, le peuple doit donner sa contribution. S'il n'y a pas de contribution, il n'y a pas de récompense aussi. C'est pour cela que nous voyons que les étrangers qui viennent dans ces pays, on dit que les étrangers viennent, ils deviennent riches, mais justement, c'est parce qu'ils amènent la contribution. Si un étranger vient ici, il crée une entreprise, il met 100 personnes à travailler, parce que notre problème, c'est le problème des manques d'emploi, n'est-ce pas? C'est sûr que celui qui crée la solution des sans-emploi va profiter de cette force-là pour créer sa richesse. Donc, c'est normal. Pourquoi nous, alors, quand nous sommes ici, nous ne pouvons pas faire la même chose? Si nous faisons aussi la même chose, nous pourrons bel et bien profiter des richesses de ces pays.
Comment démarrer une affaire sans un capital? Beaucoup de gens peuvent avoir des objectifs, des idées ou une vision, mais souvent ils se plaignent du manque de fonds de démarrage.
Si l'homme de la rue n'a pas le capital pour commencer, alors les cadres congolais qui a occupé des postes dans ces pays de 1960 jusqu'à aujourd'hui, pourquoi lui n'a pas de fonds? Nous avons un problème. Notre problème, c'est l'ignorance. Nous sommes une population professionnellement intelligente, mais financièrement ignorante. Et quand une population est professionnellement intelligente, financièrement ignorante, cela va se manifester dans les décisions qu'elle va prendre. Ça veut dire, au niveau décisionnel, on prend des décisions de bonne volonté, mais ce sont plutôt des décisions qui créent plus de pauvreté, qui créent plus de blocage. J'aurais voulu que l'intelligence financière des dirigeants évolue, des cadres évolue, parce qu'eux, ils peuvent trouver plus facilement des solutions, comme la création d'emploi pour l'homme de la rue. Tout de même aussi, l'homme qui est à la rue, s'il reste à la rue, c'est parce qu'il n'a pas de connaissances pour sortir de la rue. Il faut qu'on appuie donc tous ces programmes de l'éducation financière pour que l'homme qui est à la rue puisse avoir des programmes et des plans spécifiques qui permettent à l'homme de la rue d'aujourd'hui à devenir entrepreneur demain ou à devenir créateur de richesses demain. Moi, je pense que c'est tout à fait possible, mais malheureusement, il y a encore absence de ce genre d'accompagnement.
La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Comment transmettre cette connaissance à ceux qui en manquent et qui en ont besoin?
Oui, donc si nous avons reconnu que le problème, c'est un problème de l'ignorance, n'est-ce pas? Oui. Dont nous avons besoin de connaissances. Maintenant, nous devons trouver comment transmettre ces connaissances. Mais messieurs les journalistes, comme vous savez, il n'y a pas un système organisé et structurel et étatique de transmission de connaissances comme un système éducatif. Parce que ce qu'on appelle système éducatif, c'est des structures organisées d'un pays qui permet de transmettre des connaissances à la jeunesse pour préparer la jeunesse demain à devenir créateur de richesses. Donc moi, je crois en tout premier lieu et j'invite les autorités et toute la population, le parent et toutes les forces vives à comprendre que aussi longtemps que notre système éducatif n'insère pas un cours d'éducation financière et création de richesses, nos jeunes formés dans nos systèmes éducatifs sortiront toujours de l'école avec l'ignorance. Et dans ce domaine, alors ils vont continuer à mourir. C'est pas la mort physique, c'est la mort en termes de manque d'emploi, de sous-emploi, d'incapacité de sortir de la pauvreté. Donc moi, je pense que dans les systèmes éducatifs, ça pourrait être un des moyens rapides et étatiques pour transmettre ce genre de connaissances, mais aussi en soutenant des programmes d'éducation des masses. Hein. Ça peut se faire aussi par la sensibilisation à travers les médias. S'il y a un programme de la société, bon, aujourd'hui, il y a trop de débats sur la politique, politique et la religion, mais il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait comme les programmes que vous avez vous donné aujourd'hui, d'éducation de la population, où on incite les gens à acquérir les connaissances. Mais la population aussi peut apprendre par elle-même. Nous devons savoir qu'on n'apprend pas tout à l'école. Il y a aussi la formation continue. Il y a des livres qui peuvent nous apprendre comment nous pouvons nous organiser à partir d'un faible revenu, comment tracer des plans et des objectifs qui vous permettent par des actions bien réfléchies de sortir de la pauvreté pour pouvoir devenir financièrement stable et qui sait peut-être demain devenir riche. Et aussi soutenir les acteurs. Vous voyez par exemple cette initiative de ISTC, c'est une initiative des citoyens, n'est-ce pas? Le pays nous appartient. Nous ne devons pas attendre que d'autres personnes viennent faire le travail à notre place. Nous avons des connaissances, nous les transmettons à travers cette structure International Success Training Center, à travers par exemple des conférences que nous donnons, d'ailleurs gratuitement, au moins une fois chaque mois. Il y a même des équipes de conférenciers qui sont en train de les donner à travers la ville. Nous avons des livres que nous avons écrits pour permettre aux gens qui n'ont pas le temps de venir suivre nos formations physiquement, de suivre ces formations par des lectures comme autodidacte à la maison. Et nous avons les coachings financiers et des sessions que nous organisons. Et de temps en temps, nous avons des programmes d'éducation des masses avec Télé 50 et Radio 50, maintenant peut-être avec Radio Okapi. Et c'est une manière de faire évoluer la pensée de l'homme congolais. Parce que c'est quand sa pensée n'évolue pas, nous serons dans cette situation où la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ».
Et l'homme ne doit pas se nourrir seulement de ce qui entre dans l'estomac, il doit aussi savoir nourrir l'esprit et l'âme. Et l'esprit se nourrit par la lecture, c'est ça.
La force de l'homme se trouve dans l'esprit. La force de l'homme se trouve dans l'esprit. Et je suis content que vous souleviez cet aspect-là. Si nous nourrissons que notre corps, nous n'aurons que la force physique. Et avec la force physique, nous ne pouvons résoudre que des problèmes physiques avec notre force. Mais la force mentale, la force intellectuelle, la force spirituelle, c'est cette force-là qui est créatrice. Donc la population aujourd'hui doit apprendre à nourrir son mental. Vous savez que nous sommes dans une société des intellectuels illettrés, hein? Ça veut dire quoi? Les gens sont allés étudier pour avoir des titres académiques, hein, pour l'honneur. Mais les jours où ils finissent leurs études, après ils ne lisent plus. Faites vos recherches, vous allez voir que même les professionnels, tu vas voir quelqu'un depuis qu'il a fini l'université, il y a 10 ans, il n'a jamais lu un livre dans son domaine, du début à la fin. Encore des livres comme des développements personnels, n'en parlons pas. Alors que notre pays a besoin vraiment du développement personnel, notre pays a besoin de la connaissance, parce que la connaissance elle est dynamique, hein. Elle n'est pas statique. Nous devons augmenter en permanence nos connaissances pour que nous soyons à la hauteur des défis de notre époque.
Maintenant, nous voulons savoir, vous qui avez réussi, si on vous demandait aujourd'hui quel est le secret des réussites, que répondriez-vous?
Si vous voulez comprendre les secrets des réussites, hein, vous devez d'abord comprendre que dans la vie, ce qui manque, ce ne sont pas les opportunités. Il y a des opportunités, il y a même trop d'opportunités. Mais il y a une condition pour qu'une personne soit capable de transformer une opportunité, n'est-ce pas, en succès, c'est la préparation. Parce qu'en succès, nous disons, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité qu'il y a succès, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas été préparé dans un domaine, vous ne pouvez pas réussir. Et cette préparation, c'est justement l'acquisition des connaissances et des compétences.
C'est ça, la reprogrammation mentale.
La reprogrammation. Ça veut dire qu'il faut connaître le principe de la création des richesses et les intégrer dans votre vie. Prenons par exemple le principe de l'objectif. Les jeunes gens qui vont à l'université aujourd'hui, à part l'objectif d'obtenir un diplôme ou un titre académique, est-ce qu'ils ont vraiment des objectifs clairs dans la vie de ce qu'ils vont réaliser? Ils n'en ont pas. Prenons le principe comme le principe de l'épargne. Est-ce que les gens savent que l'épargne, c'est la seule action qui peut faire sortir une personne de la pauvreté? Ils ne le savent pas et ils ne le font pas. Alors, quand il y a l'ignorance dans ces domaines, on ne peut pas le faire. Et le secret, c'est la connaissance. Je pense que d'ici les jours, vous pouvez parler aux gens qui ont fait les coachings financiers ici, vous allez vous rendre compte que rien que les cours qu'ils ont reçus leur ont permis d'avoir des connaissances qui peuvent leur permettre de sortir de la pauvreté, même en partant des strictes mariens. Donc je pense que le secret, c'est la connaissance. Il n'y a pas de magie, il faut connaître. Si vous ne vous connaissez pas dans les domaines de mécanique, vous ne pouvez pas réparer une voiture. Si vous ne vous connaissez pas dans les domaines de la chirurgie, vous ne pouvez pas opérer une personne. Mais si vous vous connaissez, un bon chirurgien peut réussir son opération.
Suivons à présent les témoignages de quelques citoyens. qui ont créé des business, des citoyens qui sont arrivés, qui sont parvenus à créer des biens et services, à créer des richesses. Suivons ce qu'ils nous disent par rapport à leur expérience.
Je suis Rossi Moheta. J'ai fini ma formation auprès du coach Ricardo Kanyama dans l'Institut ISTC. Et là, je suis entrepreneur. Je suis même dans le marché de l'entrepreneuriat. Ben, je suis venu apprendre, approfondir mes connaissances sur l'entrepreneuriat, aussi sur la création de richesses personnelles et communautaires. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez créé comme richesse?
Là, j'ai investi dans le secteur agro-pastoral. Je suis éleveur, j'élève des porcs et mon objectif, c'est d'alimenter l'Afrique entière. Voilà. Ben, je crois qu'avec ce que j'ai appris, tout ce que je peux faire, c'est de conscientiser les autres qui sont bons dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est plus important. Moi, je suis dans l'agro-pastoral, d'autres peut-être sont plus aptes dans les mines, d'autres dans autre chose. Mais tout ce que je peux faire par rapport à ça, c'est que je dois les conscientiser d'être un peu plus capables, d'augmenter leur capacité à fournir plus d'efforts pour capitaliser le domaine dans lequel ils œuvrent. Voilà.
Moi, je suis pasteur Roger Mahembe, je suis informaticien, je suis enseignant donc dans les instituts supérieurs en informatique. Je me lance aussi dans l'entrepreneuriat.
Qu'est-ce que vous faites au juste?
Bon, dans l'entrepreneuriat, bien que j'ai fait une longue carrière informatique, je me suis orienté vers les domaines de la construction.
Vous avez créé votre richesse?
Je suis en train de la créer. Je sais que j'ai commencé, donc je suis parti pour atteindre des sommets, si les Congolais voient. En réalité, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Or, nous les Congolais, nous ne connaissons pas notre pays. C'est-à-dire que nous savons certaines choses sur notre pays. Nous avons certaines informations sur notre pays. Mais nous ne les connaissons pas. J'ai eu l'opportunité, la grâce, de visiter plusieurs provinces, quoique je n'ai pas été vraiment loin dans les provinces. Mais je crois qu'il y a un effort que nous devons faire d'abord, c'est de connaître réellement ce pays. Quand on connaît ce qu'on a, quand on connaît ce qu'on est, on ne peut que aimer. Donc c'est ça aussi. Nous Congolais, nous n'aimons pas notre pays parce que nous ne le connaissons pas. Les gens qui aiment notre pays, c'est parce qu'ils le connaissent. Et quand ils viennent ici, ils savent où mettre les pieds, où mettre la main pour puiser ce qu'ils veulent puiser. Parce qu'ils connaissent notre pays. Et ils aiment, ils savent que c'est un pays d'opportunité. Nous-mêmes, nous pensons que c'est un pays de malchance, un pays de maudits. Alors que d'autres voient que la RDC est un pays d'opportunité, c'est un pays béni. Nous, c'est simplement de la bouche que nous savons que c'est un pays béni. Mais dans les faits, nous pensons toujours que c'est un pays maudit et c'est ce que les gens disent tous les jours. Si vous voulez avoir les grâces d'une femme, il faut l'aimer. Comme vous voulez avoir les grâces de la RDC, il faut l'aimer.
Votre magazine Droit et Citoyenneté se poursuit autour de la question de la création des richesses. Pour notre invité, il est important de repenser le programme d'enseignement en insérant un cours d'éducation financière pour apprendre aux jeunes gens comment créer des richesses.
Sur le plan de l'enseignement, les latinistes nous ont enseigné « non scolae sed vitae discimus ». Nous n'étudions pas pour l'école, mais pour la vie. Est-ce qu'on acquiert ce dont on a besoin pour sa réussite, pour le succès de sa vie à l'école?
Oui, oui, absolument. Normalement, nous devrions acquérir ce dont nous avons besoin à l'école.
Malheureusement, ceux qui sortent de l'école chôment, ils se plaignent, ils souffrent.
Mais c'est la faute de nous qui dirigeons les systèmes éducatifs. Parce que vous savez que les jeunes, quand il est en train d'étudier, il n'a pas l'intelligence pour pousser la réflexion plus vite et résoudre certains problèmes. C'est pour ça que ça devait être la politique de l'État. Je suis en train de dire que notre État ne comprend pas qu'un système éducatif ne devait pas se borner à former des employés. Pourquoi nous sommes dans un monde où trouver un emploi, c'est un problème? Nous devrions maintenant former les étudiants dans les deux orientations, n'est-ce pas? À la fois comme employés, mais à la fois aussi comme créateurs, ça veut dire entrepreneurs. Parce que notre société a besoin des créateurs. Il n'a pas seulement besoin de la main-d'œuvre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous apprenons à l'école qui peuvent nous aider pour la vie. Cependant, je dois souligner qu'il y a l'absence de certaines connaissances. C'est donc ces connaissances que nous devons ajouter, n'est-ce pas, pour que le système devienne complet. Parce que le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est un système conçu vers les années 1950-1960. En ce moment-là, la situation était différente. Il y avait trop de vacances et il n'y avait pas de gens formés. Aujourd'hui, la situation est renversée. Il y a plus de formés et moins d'opportunités d'emploi. Donc, nous devrions changer aussi le contenu de notre système éducatif. Mais l'école reste le meilleur endroit pour la préparation de quelqu'un dans la vie. C'est parce que j'ai été formé à l'école que je peux lire celle aujourd'hui. C'est parce que j'ai été formé à l'école que je peux faire les recherches. C'est parce que j'ai été formé à l'école que je peux prendre des décisions responsables, n'est-ce pas? Mais il faut aussi que cette manière de former, qu'on puisse l'intégrer dans la philosophie et dans nos actions. Parce que tout de même, il y a aussi trop de gens qui ont été dans les systèmes éducatifs qui n'ont même pas appris à analyser des situations, comprendre et donner des réponses adéquates.
Donc, il faut intégrer aussi ces programmes d'éducation financière dans notre système éducatif.
Je crois fermement et je me dis que notre pays, retenez bien messieurs les journalistes et je pense que les auditeurs qui sont en train de me suivre pourront se rappeler de cela. Notre pays ne décollera jamais, jamais. On peut changer de gouvernement, on peut changer tout ce que vous voulez là, mais le pays ne décollera jamais si on ne comprend pas l'importance de rendre le peuple congolais créateur des richesses. Parce que la richesse d'un pays, c'est aussi la somme de la richesse de sa population. Et une population ne peut pas devenir créatrice de richesses si au préalable il n'y a pas un système qui lui donne les compétences et les connaissances dont il a besoin. Et ces compétences et connaissances dont il a besoin ne peuvent venir qu'à travers un cours structuré que nous appelons un cours d'éducation financière, mais ça sera tout justement un cours qui peut donner à n'importe quel jeune les connaissances dont il a besoin pour lui permettre de vivre de manière à faire progresser sa vie financière. Regardez dans notre société, quel que soit le niveau académique qu'une personne formée dans notre système a, la problématique des richesses reste toujours un mystère. C'est soit un mystère, soit c'est un sujet diabolique, soit c'est un sujet tabou, soit c'est un sujet lié à l'occultisme. Pourquoi? Justement parce qu'à l'école, de l'école maternelle jusqu'au doctorat, on nous a même pas donné un cours qui nous aide à comprendre c'est quoi la richesse, c'est quoi l'argent, comment l'obtenir, comment les garder, comment les fructifier, comment les faire passer d'une génération à une autre. Tout ça, on nous a pas appris. Donc, nous sommes des ignorants.
Il faut toujours savoir vous fixer des objectifs plus élevés et les dépasser, aller plus loin que ces objectifs. On renvoie à la magie de voir grand. On vous apprend juste d'être visionnaire. Voilà. Comment être visionnaire? Donc, il y a un problème de culture, de manque de lecture très criant chez la plupart des gens et qu'il faut combattre. Et je crois que l'ISTC
mais c'est ce que nous sommes en train d'échanger ici. Vous voyez la problématique des livres, messieurs les journalistes. Ici, au Congo, il y a une peur des livres, il y a une perception des livres comme source de magie, d'occultisme et de tout. C'est ça qui constitue un blocage pour notre peuple. Depuis 2014, je donne des conférences, j'ai dit aux gens, j'ai dit, vous devez vous intéresser au développement personnel. Il y a des livres qu'un homme doit lire absolument pour réussir. Des livres comme Réfléchissez et devenez riche, des livres comme Père riche, Père pauvre, et des Robert Kiyosaki, des livres comme Rendez-vous au sommet des Zig Ziglar, La magie des voix grands, voilà. Bon, maintenant il y a aussi des livres comme La chef de ma mère, Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel, pourquoi pas, des livres que moi-même j'ai écrits. Au début, les gens ne croyaient pas. Mais s'il vous plaît, messieurs les journalistes, si vous allez aujourd'hui vers la gare centrale ou sur l'avenue de la justice, sur les boulevards, tous les vendeurs ambulants là, aujourd'hui, se promènent avec tous ces livres de succès. Parce que ceux qui ont lu, ont compris, ce sont des familles entières maintenant qui sont en train de courir pour payer ces livres. Et on se rend compte que si nous avions ces genres de connaissances, on pourrait réussir un peu plus facilement. C'est pour ça que nous continuons à vulgariser, nous continuons à sensibiliser la population pour dire que ce n'est pas de l'occultisme. Il y a une différence entre la connaissance et l'occultisme. Regardez, la magie c'est quoi? C'est lorsque tu prends un grain de maïs, tu veux que les grains de maïs se multiplient, il devient 1000 grains de maïs, n'est-ce pas? Mais la connaissance c'est quoi? C'est connaître les principes que si tu prends un grain de maïs, tu sèmes dans le sol, n'est-ce pas? Au moment approprié, en respectant certains principes de la nature, ces grains de maïs peuvent pousser, donner 1000 grains de maïs. Ça, c'est la connaissance. Ça, ce n'est pas l'occultisme. Ça, ce n'est pas la magie. Ça, c'est la connaissance. Et tous ces livres parlent des connaissances, des lois que nous devons appliquer. Prenons la loi de l'épargne, par exemple. Si tu ne connais pas la loi de l'épargne, quel que soit ce que tu gagnes aujourd'hui, si tu l'utilises pour la consommation immédiate, tu es condamné à rester dans la pauvreté. Mais en lisant un livre comme ça, tu vas comprendre l'importance de la loi de l'épargne, tu vas changer ton action et cette action va te rendre riche, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors nous devons travailler, j'invite vous les médias à donner les paroles à nous des acteurs qui parlent de ça pour vulgariser, pour exorciser la population de la peur des livres.
Avant de conclure notre magazine, nous allons d'abord passer en revue les défis à relever dans le processus de création des richesses. Ricardo Kanyama explique.
Coach Ricardo Kanyama, nous allons maintenant aborder un point qui touche à l'ISTC. Quelles peuvent être les faiblesses et les points forts de l'ISTC dans son parcours?
Il y a des points forts et des points faibles, oui, comme toute institution. Je vais commencer par le point fort. Le point fort de l'ISTC, c'est le fait que l'ISTC a perçu les problèmes qui existent. L'absence de la connaissance disponible dans notre population pour qu'une personne progresse dans la vie, pour qu'une personne réussisse financièrement et aussi pour qu'une personne éventuellement puisse devenir riche. Parce que dans notre société, les gens ne deviennent riches que par hasard, n'est-ce pas? Ou par chance. Chance est l'okopamba. Mais ISTC a structuré les connaissances pour que ça devienne de manière scientifique. Comme exactement une personne va à l'université apprendre pour devenir juriste, on peut venir à ISTC apprendre pour devenir leader financier. Ça, c'est un point fort. Et notre engagement, c'est clair, c'est une grande contribution. Ça transforme déjà la vie de beaucoup de gens. Mais la faiblesse, c'est quoi? La faiblesse, c'est que le défi est tellement énorme que ce n'est pas un problème qui devait être attaqué par une petite structure, une personne. Même si nous avons les connaissances, même si nous avons l'ambition, nous devrions être accompagnés par l'État et toutes les structures pour que ça puisse s'implanter. Imaginez, nous sommes ici à Kinshasa et parfois à Lubumbashi, mais toutes les autres provinces, on nous appelle, nous n'avons pas encore les capacités pour entrer dans les fins fonds des pays pour répondre à toute la demande. Donc la faiblesse, je pouvais dire, c'est l'insuffisance des moyens par rapport à la grandeur du défi.
Et quelles peuvent être les perspectives d'avenir?
Le perspective d'avenir pour nous, c'est de faire comprendre d'abord à tous les acteurs, à tous les niveaux, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau des organismes, au niveau des églises, au niveau de la société, pour dire nous devons travailler main dans la main pour pouvoir résoudre les problèmes de notre pays. C'est pas une fatalité. Nous pouvons renverser la situation. Nous avons trouvé la connaissance dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin des efforts de tout le monde pour vulgariser. Nous avons besoin que les parents apprennent ces connaissances pour enseigner à leurs enfants. Que les enfants apprennent déjà dès la maison qu'il est possible de devenir riche, qu'il est possible d'économiser, qu'il est possible de devenir entrepreneur en partant de strictement rien. Qu'ils aient accès à ces exemples positifs. Que l'État puisse financer des programmes d'éducation de la masse, n'est-ce pas? Quand on sait qu'il y a un problème, avec une action et un programme spécifique, on peut changer ces problèmes-là. Voilà. Donc moi, je pense que c'est important que nous puissions prendre conscience de la grandeur de ces problèmes et que nous puissions travailler la main dans la main pour révolutionner notre pays.
Et sur quelle note vous pouvez conclure cette émission?
Je voulais les conclure en rappelant au peuple congolais que devenir riche, c'est notre droit. Il est temps que nous puissions le comprendre, que nous avons le droit de devenir riche et que toute personne qui nous dit le contraire est dans l'ignorance. Je me dis personnellement, si Dieu voulait que nous, Congolais, que nous vivions pauvres, il allait faire que nous ne puissions pas naître en République démocratique du Congo, nous devrions naître en Somalie. Dieu n'est pas idiot lorsqu'il a voulu que nous puissions naître, vous et moi, dans l'un des pays les plus riches du monde en termes de ressources naturelles. Ça serait vraiment contradictoire de vivre dans les pays les plus riches du monde et être l'homme le plus pauvre du monde. C'est pour ça que nous devons nous lever et comprendre que notre problème, c'est un problème d'ignorance. Le succès, la richesse, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Il appartient à chacun de faire sa part, comme l'acquisition de connaissances et les actions judicieuses pour sortir de la pauvreté, bien sûr sous l'encadrement des actions étatiques ou du gouvernement. Mais de même que personne ne peut manger à ta place, hein, personne ne viendra épargner à ta place, personne ne viendra te rendre riche, les autres ne peuvent que t'accompagner. Donc j'encourage la nouvelle jeunesse au renouvellement de l'intelligence, à ne plus adopter cette pensée de fatalité ancienne qui attendait tout de l'État, mais comprendre que nous sommes les acteurs, nous pouvons changer des choses, nous pouvons changer notre destin, nous pouvons changer le destin de notre pays et nous en sommes capables.
Merci beaucoup, Président Ricardo Kanyama.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine Droit et Citoyenneté qui s'est penché sur la création des richesses par les citoyens. Ricardo Kanyama, président de ISTC, Centre de Coaching en Éducation Financière, a été notre invité. Jody Daniel Keshama, au micro, William Lungamba a assuré la technique sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. À bientôt.